Des Lilles. Le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière propose chaque année plusieurs expositions d'art contemporain. Désormais, elle s'expose aussi sur les ondes de votre radio, avec un programme en trois temps intitulé « Sons des Lilles ». Le mix musical, les capsules sonores et la sélection de livres du ou des artistes à découvrir à la librairie du Centre d'art. Și prima zi i-am nagiș ca-n ghigutajul Chici mane ghecun ghecudopan Cauni bunea nișa ghece mine uian Cauni deșcutasi.
Tout de suite sur Radio Vassivière, Ligne et Corde, la sélection de livres, des chroniques autour des ouvrages sélectionnés en lien avec l'exposition Ligne et Corde de Nadia Mir. Pour sa première exposition monographique en France, l'artiste autochtone canadienne Nadia Mir poursuit ses recherches sur les liens historiques entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi que sur les formes de colonialisme qui persistent dans la société contemporaine. Ligne et Corde soulève des questions d'identité et de langue, de traduction et d'appropriation entre les cultures et à travers le temps, à découvrir jusqu'au 29 décembre 2024 au SIAP Vassivière.
Bonjour et bienvenue sur Radio Vassivière. Tout de suite, une nouvelle chronique littéraire en rapport avec l'exposition Ligne et Corde du Centre international d'art et du paysage. Et je suis en compagnie de Gaëlle Mas, qui est la médiatrice de ce centre d'art. Et je suis aussi avec Nini à la technique, qui va parler avec nous. Bonjour Nini.
Bonjour.
Coucou. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Lilou.
Comment ça va?
Eh bien, ça va bien. Je suis dans l'angle du soleil, dans le studio de la radio Vassivière. Ça me joue des tours parfois.
Tu as de très beaux yeux.
Merci.
Alors, quel livre tu vas nous présenter aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je suis venue avec la revue Gradiva, numéro 33, qui est publiée par le musée du Quai Branly Jacques Chirac, donc à Paris. Le numéro 33 qui est dédié au Wampum, perle de diplomatie en Nouvelle-France, qui est un catalogue d'exposition du musée du Quai Branly, donc du 8 février au 15 mai 2022, et qui est en lien direct avec l'exposition de Nadia Mir, Ligne et Corde.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce lien direct avec l'exposition?
Tout à fait. Donc, vers le tout début du XVIIe siècle en Amérique du Nord-Est, alors que la France étend son emprise coloniale dans la région, de petites perles cylindriques en coquillage, les wampum, ou porcelaine pour les Français, commencent à être utilisées comme objet d'échange entre Amérindiens et Européens. Chez les nations autochtones, le wampum a un usage social et politique bien établi, ornant souvent les objets de prestige. Certaines nations iroquoiennes en font des colliers tissés et des ficelles de perles qui servent à matérialiser la parole donnée. Dans un monde de l'oralité où l'écrit n'a pas encore sa place, les nations européennes se plient au protocole autochtone et adoptent ces perles qui parlent pour négocier alliances et traités. Ainsi débute une histoire vieille de plus de 4 siècles, au cours de laquelle les sens et valeurs du wampum évoluent au gré des bouleversements politiques et culturels qui affectent la région et mettent à mal l'autonomie amérindienne. Donc l'exposition du Quai Branly part sur les traces des exemplaires de wampum conservés en France, parmi les plus anciens au monde, et revient sur leur signification et leur usage à travers le temps. Le dialogue engagé à cette occasion entre les collaborateurs Abenaki français, Huron-Wanda et Haudenosaunee, soit Iroquois, revisite les relations issues de la rencontre de deux mondes. Les traditions autochtones, l'adaptation européenne à ces traditions, la mythologie iroquoienne et le monde amérindien au XVIIe, XIXe siècle, ainsi que le rôle des wampum dans nos sociétés contemporaines, objets de musées, mais aussi de créations artistiques, des cérémonies, des revendications autochtones d'aujourd'hui. Donc, ça c'est plutôt qu'est-ce que le wampum ? Et dans l'exposition donc, de Nadia Mir, donc, qui est une artiste autochtone du Canada, issue des Nations Premières, eh bien, elle a réalisé des œuvres en perles qui reprennent le wampum. Alors, un wampum, objet de diplomatie, on va dire, une ceinture qu'on porte, une ceinture donc, tressée de perles, qu'on porte en écharpe, un petit peu comme nos élus.
Mmh, ok, oui, je vois.
Un peu comme le maire.
J'ai l'image.
Ce sont des perles tressées, hein, des ceintures de perles. Et donc, déjà dans la revue Gradiva, on retrouve des très belles images d'archives et des textes très pointus autour de cet objet de diplomatie. Donc, Nadia Bir nous expliquait que les ceintures wampum étaient tissées à l'issue ou durant les négociations, les rencontres entre différents peuples. Donc, ces ceintures prenaient beaucoup de temps à être réalisées, hein, puisque chaque perle, donc, déjà, ça provient de coquillages qui sont délicatement ciselés. Puis chaque coquillage va être assemblé, certains coquillages sont colorés. Donc voilà, peut-être je voulais montrer une image. Alors montrer une image à la radio, c'est quand même...
Mais tu peux peut-être la décrire un petit peu.
Voilà, c'est ça. Il y a une image qu'on a retrouvée que j'ai retrouvée plusieurs fois dans mes recherches de wampum, où du coup, tu as deux petits personnages qui se tiennent par la main, mais c'est un petit peu des bonhommes de jeux vidéo, parce qu'on a vu que c'est les perles qui créent les motifs.
Oui, comme les pixels dans les jeux vidéo.
Voilà, exactement. Donc voilà, donc la France a conservé des ceintures, puisqu'il y a des populations autochtones à l'époque qui ont fait le voyage jusqu'en France pour amener les ceintures. Bon, je vois pas... voilà, et il y a aussi des croisements avec le catholicisme dans les motifs des ceintures. Pas exhaustif dans toutes ses formes. Comprenez-moi le mixage et culture dans les grandes agglomérations. Doit être prise en compte au niveau de l'éducation. La France, pays colonisateur, le désert d'hégémonie économique, à l'époque on était l'un des facteurs. Et pour que l'unité des hommes se fasse de façon progressive, commençons par étudier la façon dont les différents peuples vivent. Le système scolaire doit être remanié. L'histoire de l'humanité est un sujet facile à manipuler. Sans approfondir le développement des politiques, dans certains pays on obtient des générations éduquées comme le pouvoir. On a envie, mais je m'en sors. Tous les jeunes qui m'écoutent, poursuivez vos études. Bon, bon, bon.
génération. La compréhension de l'histoire du monde est prédominante pour le futur des différentes nations. Prêtez attention, nous parlons des désidératas du système éducatif, véhiculant les lacunes donnant naissance au racisme, à l'intolérance et à l'individualisme. Prenez du recul sur l'enseignement en Occident, mais comment prendre du recul quand le conditionnement commence à 5 ans? Okay, yeah, yeah, pour la nouvelle génération. Okay, yeah.
Est-ce qu'on peut rappeler le titre de la musique, s'il te plaît, Gaëlle ?
Oui, on vient d'écouter un morceau du groupe Assassin qui donc, s'appelle « À qui l'histoire ?» entre parenthèses, le système éducatif.
Merci. Alors, est-ce que tu as sélectionné un petit passage du livre ?
Le système scolaire, pardon.
Oui, pardon. Est-ce que tu as sélectionné un petit passage du livre que tu voudrais nous lire ?
Oui, mais avant ça... Je voulais parler du choix de la musique, parce qu'en fait, dans l'exposition, il y a une œuvre aussi en lien avec le système scolaire. Alors, bien sûr, ça va traiter de comment l'histoire va être écrite et la perspective blanche qui est omniprésente, donc via... des images issues donc, du musée simpsonien. Donc du premier général, Smith. Je m'en mêle un peu. Général Smith, donc, qui était le premier général blanc. Donc en fait, aujourd'hui, les archives, tout ce qui concerne les peuples autochtones, leur histoire se trouve dans des musées blancs. Donc ça pose question. Et aussi, dans l'exposition, on a une référence à la loi sur les Indiens, qui est une loi qui a été promulguée à la fin du 19e siècle au Canada, et donc où les Indiens sont à la merci du gouvernement canadien. Donc ils sont obligés d'habiter dans des réserves, dans des terres réservées. Mais aussi, il y a toute une histoire autour de la scolarisation des enfants, puisque les enfants des peuples autochtones étaient obligés d'aller dans des pensionnats pour être, entre guillemets, blanchissés. Donc une histoire très, très violente avec des pensionnats. Le dernier a fermé dans les années 90. Donc c'est quand même une histoire du 20e siècle où des enfants sont arrachés à leur famille pour leur bien, pour servir la vision blanche. Et donc aujourd'hui encore, la population autochtone est déchirée par cette histoire, quoi. Donc l'exposition, on peut retrouver les traumas des peuples autochtones.
Alors il y a un film qui a plusieurs points de vue. Un film qui parle avec plusieurs points de vue, donc... un soldat qui va devoir ramener un Indien à sa réserve à la base, à sa première réserve, alors qu'il est excessivement raciste à cette époque-là par rapport aux Indiens. Et on a aussi le point de vue d'une petite fille, je crois, qui est justement dans un pensionnat comme ça, dont tu parles. Et ce film est vraiment super. Est-ce que Nini, tu peux regarder quel est le titre du film avec Christian Bale ?
J'adore Christian Bale aussi. J'adore. Ça me dit rien du
tout. C'est un western, mais où on voit vraiment tous les points de vue. Et ce western est vraiment super. Et donc, on voit vraiment ce passage avec cette Indienne qui essaye de s'enfuir. Parce qu'ils sont
hostiles,
ah, c'est merci. Ça. Il est super. Et voilà, qui essaye de s'enfuir parce qu'ils sont vraiment très, très, très maltraités dans ces pensionnats.
Oui, et actuellement aussi, il y a des choses sur Arte à visionner. Il y a un documentaire sur les populations autochtones au Canada aujourd'hui, qui doit être visible encore. Et puis, il y a une série, malheureusement, je n'ai pas noté le nom,
qui est sur Arte aussi ?
Ouais, okay. Il y a une série sur Arte aussi sur ces thématiques en fait des enfants qui sont arrachés à leur famille. Mm-hmm.
Ok.
Donc une série assez difficile, mais je trouve qu'ils ont réussi à jongler et à faire en sorte que Little Bird, ça nous arrache c'est pas ça. Trop le cœur quand même, parce que c'est quand même très difficile comme histoire. Donc, je vous lis un petit passage sur les wampums.
Avec plaisir.
Les colliers et autres objets de wampum dans les collections françaises. L'histoire des colliers et branches de wampum conservés en France reste à ce jour mal documentée. La première publication dédiée aux spécimens préservés à Paris est l'œuvre d'Ernest Théodore Amy, conservateur du musée d'ethnographie inauguré au palais du Trocadéro en 1882, dans un ouvrage intitulé « Galerie américaine ». Amy documente une sélection de pièces provenant du fonds américain. L'ensemble, le plus prestigieux et le plus ancien qu'abrite à l'époque la jeune institution. Ayant donné sa préférence à divers objets remarquables par leur rareté ou offrant une sorte de caractère historique, il choisit de dédier une section à cet objet de wampum dont il a la garde, nous offrant une rare vue de l'ensemble tel qu'il est exposé au public à la fin du XIXe siècle. Le conservateur attribue les trois colliers et les branches de cet ensemble aux Hurons du Canada, se basant très probablement sur le simple fait qu'il s'agit, au temps de la Nouvelle-France, de la principale nation alliée des Français. Oui, les Français ont eu une colonie au Canada, les Anglais aussi. Et puis, il y avait différentes populations autochtones. Et donc, tout ce petit monde, à un moment donné, s'est fait la guerre. Et c'est les Anglais qui ont remporté la mise. Mais voilà, le Québec est resté là quand même, un petit peu avec des traces du passage français. Et donc, je voulais revenir aussi un petit peu sur le terme « indien ». Pourquoi on appelle les populations autochtones indiens ? Mm-hmm. Peut-être vous le savez, c'est une histoire un peu connue, non ?
Moi, je crois que je sais.
Ok.
J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est parce que Christophe Colomb, en arrivant en Amérique, était sûr d'être en Inde.
Et voilà.
Et donc, on les a appelés les Indiens, et c'est pour ça qu'on dit les Indiens d'Amérique, voilà. Qui n'ont rien à voir avec les Indiens d'Inde.
Voilà. Donc en fait, les populations ont été nommées selon une erreur de Christophe Colomb qui pensait débarquer en Inde parce qu'on cherchait la route des épices à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire population autochtone, voire même on dit les nations premières.
Bon, aborigènes aussi un peu, non ?
Aborigènes,
c'est plutôt l'Australie.
Ouais, c'est ça. Comment nommer parce qu'en fait, c'est aussi une histoire de langage. Tout le paysage et tout a été renommé par les Blancs.
Mais ce qui est faux aussi, c'est que dans cet effet de nommer avec un titre, donner une catégorie, un titre à une population, c'est devenu aussi d'une façon de nommer respectivement une certaine population. Je sais qu'en Amérique du Sud, un indio, c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'éducation. En fait, c'est aujourd'hui, on s'est trop aussi à briser tous ces préjugés autour de ces mots.
Du langage,
justement, des Indiens. Donc, on est toujours sur Radio La Civière, on est en Centre des Lilles, on parle de cette revue numéro 33, Gradiva Wampum, voilà. Les perles de la diplomatie. Et est-ce qu'on peut évoquer des autres ouvrages qui font écho justement à notre propos pour faire un petit tour de l'exposition et puis inviter aussi nos auditeurs à venir visiter l'exposition au Centre international d'art et du paysage?
Alors déjà, je voulais préciser que Gradiva, donc c'est une revue d'anthropologie et d'histoire des arts du musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui a été fondée par Jean Jamin et Michel Léris, qui est aujourd'hui dirigé par Emmanuel Casarerou. Donc c'est chaque numéro a une thématique bien particulière. Et donc là, l'exposition, eh bien, elle est visible jusqu'au 29 décembre 2024 au Centre d'art de Vassivière. Vous pouvez retrouver nos livres à la librairie du Centre d'art qui se trouve à l'accueil. La librairie est ouverte comme les expositions du mercredi au vendredi de 14h à 18h et les samedis et dimanches 11h, 13h, 14h, 18h. Également, autour de l'exposition est publié un catalogue, donc Lignes et cordes, qui est disponible dans la librairie au tarif de 8 euros. Vous allez retrouver des textes et des images de l'exposition. Merci beaucoup pour votre invitation.
Eh bien, merci à toi, Gaëlle, d'être venue nous présenter ces trois livres.
Et oui, on vous rappelle que vous pouvez écouter, podcaster la chronique Son des Lilles, tous les podcasts autour de ces trois tons, donc la chronique livre, le mix, plus les interviews sur le site du Centre international d'art et des paysages, qui c'est le ciapvassivière.org.
Exactement.
Et sur radioassivière.com. Merci Lilou, merci Gaëlle.
Merci à vous.
Merci.
À très bientôt et on part en musique.
Oui, on va écouter un morceau de Kazé dans nos histoires.
Tu peux me croire, y a pas d'espoir, y a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu mêmes histoires. Toujours le même malaise. Hardcore et balèze. Toujours les mêmes crises qui t'épuisent. Dans nos histoires. Toujours amer et le cœur sous armure. Dans nos histoires. Et chaque jour les mêmes angoisses qui perdurent. Dans nos histoires.